Béni soit Dieu. Heureux les gens qui peuvent chanter ce qu'on vient de chanter. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Heureux les gens qui peuvent chanter, c'est le sauveur de mon âme, c'est le Seigneur de ma vie. Je peux dire que ce sont les gens les plus heureux de la terre. Je le pense vraiment. Pour que Jésus reste le sauveur, parce qu'on peut perdre le salut, et pour que Jésus demeure toujours le Seigneur, eh bien il y a une solution. C'est d'avoir la crainte de Dieu. Et j'aimerais parler de ce sujet. Vous savez que mardi, nous avions partagé sur ce sujet, sur discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous indiquent que lorsque l'on craint Dieu, on est agréable à Dieu. Regardez par exemple avec moi dans Actes, il n'y a que l'embarras du choix, peut-être que vous avez pris une concordance et que vous avez regardé ce genre de verset. Par exemple, Actes chapitre 9, verset 31. C'est important la crainte de Dieu. Je ne sais pas si c'est un sujet qui est régulièrement développé dans les églises. J'ai peur que non. Mais c'est un sujet extraordinaire qui revient très souvent dans la Bible. En tous les cas, si vous voulez être agréable à Dieu, si nous voulons être agréables au Seigneur, il est certain que c'est un sujet que nous aimerons aborder. Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Voilà comment l'Église primitive avançait, en s'édifiant et en marchant dans la crainte du Seigneur. Ça devait plaire à Dieu puisqu'il est écrit, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Un peu plus loin, dans Hébreux chapitre 12, il nous est rappelé comment nous devons offrir un culte à Dieu. C'est important d'offrir un culte à Dieu, ce qui n'est pas une réunion, ce qui est une vie entièrement consacrée à Dieu. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Donc, on pourrait le faire, ça ne serait pas interdit. Est-ce que ça vous gênerait qu'un soir, on passe trois quarts d'heure à ne faire que lire la Bible? Est-ce que ça vous gênerait? Est-ce que vous l'accepteriez? C'est-à-dire, on prendrait, je ne sais pas moi, 3, 35, 40 minutes, ça ferait combien de textes? Je ne sais pas moi. Au moins un par minute, ça ferait 35, 40 textes. Est-ce que ça vous gênerait? Ça serait certainement la meilleure prédication, puisqu'il n'y aurait que des textes bibliques. Mais vous avouerez que ça serait intéressant, même un sujet comme celui-ci, à ne prendre que des textes sur la crainte de l'Éternel. Quelqu'un qui est agréable à Dieu, c'est quelqu'un qui a développé en lui la crainte de l'Éternel. Et comme je vous l'ai dit mardi, toutes ces choses s'enseignent, tout s'apprend, même à être content. Puisqu'il dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Est-ce que vous êtes content dans l'état où vous vous trouvez? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je suis content, j'ai peut-être pas fait tous les progrès que j'aurais dû faire, j'ai peut-être pas le pasteur que j'aurais aimé avoir pour être formé, mais ça fait rien, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est important, tout s'apprend, et même la crainte de Dieu. Regardez dans Proverbes au chapitre 2. Comprendre, être enseigné dans la crainte de Dieu. C'est David qui dit, enseigne-moi la crainte de l'Éternel. La semaine dernière, on a vu que David priait, enseigne-moi à faire ta volonté. Et là, dans le Proverbe au chapitre 2, donc c'est le fils, hein, qui c'est qui a écrit les Proverbes? Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, c'est Salomon. Proverbe au chapitre 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous avez vu? Il y a une attitude de cœur qui fait que l'on comprend la crainte de l'Éternel. Regardez avec moi au psaume 34. Dans le psaume 34, je vous dis, ça pourrait se faire. Tellement il y a des textes sur la crainte de Dieu. Psaume 34, verset 12. En plus, il y a souvent autour de ces psaumes-là beaucoup d'enseignements sur les bénédictions qui sont liées à la crainte de Dieu. Mais au verset 12. Psaume 34, verset 12. « Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Est-ce que ça vous intéresse, ce sujet?
Ou est-ce que tout le monde, la crainte de Dieu, c'est pas la peine, sachez que Dieu me bénisse, moi, que je développe ou pas la crainte de Dieu, c'est pas grave. Eh bien si, parce que la bénédiction dépend de cela. Tiens, regardons rien que dans ce psaume. On va commencer au psaume 33, le verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça vous rassure de savoir que le regard de Dieu est sur vous? Oui, vous allez me dire, mais Dieu voit tout le monde de toute façon, qu'on le craigne ou qu'on ne le craigne pas. Oui, mais ça veut dire que la protection est sur ceux qui le craignent. Laissez-moi vous dire que Dieu nous a souvent gardés sans même que nous nous en rendions compte, croyez-moi. Verset 8 du chapitre 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. C'est bien ça de savoir que l'ange de l'Éternel nous garde. Alors, un autre verset, est-ce qu'il y en a dedans encore? Vous voyez? Enfin, si vous lisez le psaume, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Vous voyez? Et si vous preniez tous les textes, vous verriez combien il est important d'être enseigné sur la crainte de l'Éternel. « Venez, mes fils, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Écoutez-moi, parce que c'est une chose d'être dans une église, comme Lucas le disait dans les chants, c'est une chose de chanter, c'est le Seigneur de ma vie, et ça n'est une autre d'écouter la parole de sorte que Jésus devienne de plus en plus le Seigneur de ma vie. Dans Ésaïe, je ne le cherchais pas, au chapitre 11, lorsqu'il nous est parlé du ministère de Jésus-Christ, lorsqu'Ésaïe présente le ministère de Jésus-Christ, il le présente comme celui qui respirera la crainte de l'Éternel. Vous vous rendez compte quelle belle image? Il respirera la crainte de l'Éternel. Quand je pense à ce verset, je pense à un autre texte dans Actes 9, si je me trompe, où il est dit que Saul respirait le meurtre et la menace. Vous vous rendez compte, Jésus, quand vous discutiez avec lui, il respirait, parce que quand on parle avec quelqu'un, il y a une certaine teneur qui s'exprime, oui ou non? Est-ce que vous avez remarqué que quand vous parlez avec quelqu'un, si quelqu'un est rempli de haine, on peut la cacher pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais au bout d'un moment, ça va ressortir. Et Saul de Tarse, quand vous parliez avec lui, il respirait le meurtre. Vous vous rendez compte? Ça devait être intéressant de discuter avec cet homme. Quand vous discutiez avec le Seigneur Jésus, il respirait la crainte de l'Éternel. Ça devait être extraordinaire. Et tiens, et nous, que respirons-nous? Quand on discute avec vous, avec moi, qu'est-ce qui ressort? Vous avez remarqué que, bon, après, il peut y avoir des moments où on est plus mieux que d'autres, mais que vous le vouliez ou non, si quelqu'un est léger, est-ce qu'à force, quand vous discutez avec lui, est-ce que sa légèreté ne va pas ressortir? C'est évident. Et c'est intéressant quand même, ça serait intéressant de savoir ce que les gens pensent de vous. Est-ce que ça serait intéressant? Oui. Mais oui, mais je pense que ça vaut peut-être la peine. Il y a des gens, quand vous discutez avec eux, ils respirent, ils transpirent la crainte. Il y a des gens, ils sont toujours remplis de crainte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors, ce n'est pas une question de juger. Il faut être prêt à s'entendre dire, oui, mais toi, tu ne respires pas la joie. Mais c'est quand même des situations qui se présentent. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris l'importance, par exemple, de respirer, de transpirer, de refléter la crainte de l'Éternel. Ça s'enseigne, la crainte de Dieu. Il ne faut pas négliger ces choses. Parce que quand vous lisez l'enseignement sur la crainte, vous voyez en plus qu'il y a énormément de bénédictions et des victoires. Parce que vous voulez être béni. Mais à quoi ça servirait d'être béni et de ne pas avoir la victoire? Je crois que c'est bien d'avoir les deux. Et d'être dans un esprit de victoire. Psaume 25, verset 12, ne le cherchez pas. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils se fichent pas mal des choses spirituelles. Ils n'ont aucun respect des choses spirituelles. La Bible dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre et son âme reposera dans le bonheur. » C'est un des points qui nous rappelle que pour être heureux, il faut avoir la crainte de l'Éternel. La Bible dit aussi « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Proverbe 9, verset 10. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est des versets qui me viennent à l'esprit. Mais voilà, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel? Eh bien, il déteste le mal. C'est une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que je déteste le mal? Est-ce que je m'éloigne du mal? Ou est-ce que je me plais à faire le mal? En tous les cas, si nous voulons voir Dieu se manifester, car c'est bien d'avoir des victoires, c'est bien d'être béni, mais nous voulons également que l'Église soit en bénédiction au monde. Est-ce que c'est important pour vous que l'Église soit en bénédiction? Ou est-ce que vous dites, bon, moi, ça m'est égal, moi, du moment que je suis béni, il y a des chrétiens qui sont très terre-à-terre, très, très repliés sur eux. Ça fait qu'ils ne pensent qu'à eux. Mais un vrai chrétien, il a à cœur les autres. Il dit, oh, moi, j'aimerais bien que toute ma famille soit sauvée. Est-ce que vous aimeriez que toute votre famille soit sauvée? Voilà. Et la crainte de Dieu contribue à ce que Dieu puisse se manifester. Et ça, c'est un des points essentiels. Il y a des gens qui s'imaginent, oui, pour que Dieu se manifeste, il faut faire ceci, il faut faire des concerts, il faut plaire aux jeunes, il faut mettre de la musique qui plaise aux jeunes, il faut mettre des spots, il faut mettre de la lumière, il faut mettre des fumigènes, et on gagnera les jeunes. Non seulement nous ne gagnerons aucun jeune, mais nous perdrons les nôtres. Ça c'est, je peux vous le dire. Pour gagner des gens, il ne faut pas des méthodes modernes. Pour gagner des gens, il faut l'approbation de Dieu, il faut l'approbation du Saint-Esprit. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens. C'est important ces choses. La crainte, c'est un sujet, on pourrait en parler des semaines entières. Des semaines entières. Prendre plusieurs textes, on peut le faire, hein, si ça se présente. Mais regardez par exemple dans 2 Corinthiens au chapitre 6, dans ce texte où il nous est dit justement de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens chapitre 6, le chapitre commence avec une exhortation, moi qui m'a fait beaucoup réfléchir en tant que chrétien et en tant que pasteur. Parce que je me suis dit, ça peut se présenter que beaucoup de chrétiens reçoivent, comme c'est le cas maintenant, en vain. C'est-à-dire, ça sert à rien. Vous vous rendez compte? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et à la fin du chapitre, lorsqu'il nous est dit de faire attention, de ne pas mélanger les ténèbres avec la lumière, le diable avec les choses de Dieu, etc., qu'un infidèle ne se marie pas avec un fidèle, etc., etc. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Regardez ce qu'il a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Est-ce que ça vous intéresse? Que Dieu habite et qu'il marche au milieu de nous. Est-ce que vous rendez? Je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, comment? Dans la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la crainte de Dieu? La journée des aînés, quand on a fait la journée des aînés, il y avait une dame, c'est une sœur qui est parmi nous, qui avait amené une voisine. Et j'avais parlé justement de l'importance de l'avoir de la crainte de Dieu. À la fin, elle est venue me trouver, elle me dit, non, je ne suis pas d'accord avec vous, avec ce que vous avez dit, il ne faut pas avoir la crainte de Dieu. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. J'ai dit, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. La crainte de Dieu, quand on connaît la parole, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est vrai que pour certaines personnes, on ne comprend pas toujours, on donne pas toujours la même signification aux mots. Mais la crainte de Dieu, c'est un profond respect des choses de Dieu. Quand ça concerne les choses de Dieu, c'est sérieux. Il y a des gens, ils s'en fichent pas mal. Ils riront avec la politique, ils riront pareillement avec les choses de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, ils n'ont pas la crainte de Dieu. À quoi reconnaît-on quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Il a un respect pour les choses de Dieu. On va rire, c'est ou sourire de choses de la vie, mais dès que c'est les choses de Dieu, on n'a pas rire. C'est trop sérieux, c'est la parole de Dieu. La crainte, ça signifie que ce comportement que je suis en train de décrire, eh bien, donne beaucoup d'honneur à Dieu. C'est ça honorer Dieu. Lorsque quelqu'un ne rit pas avec les choses de Dieu, eh bien, il honore Dieu. On rit beaucoup avec les choses de Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même souvent les journalistes font des allusions pour se moquer de Dieu. Des fois les gens me disent « Oh monsieur Gou, j'ai vu un film, c'était bien, on parlait de Dieu, je me suis... » Mais on se moque de Dieu. Moi ça me dérange vraiment. Je ne pense pas qu'un chrétien se réjouisse parce qu'on parle le nom du Seigneur. On parle du Seigneur, si c'est pour en parler en vain, ce n'est pas la peine. La crainte signifie qu'on donne à Dieu l'honneur, la gloire, la louange. C'est pour cela que Dieu aime que nous nous rassemblions le dimanche pour le louer, pour le célébrer. Et quand tout ça, c'est en accord avec notre état de cœur, eh bien, ça plaît à Dieu. Dieu aime la louange. Est-ce que Dieu réclame la louange? Voilà, c'est une façon d'être en communion avec lui. Et c'est très, très important. Quand un chrétien a la crainte de Dieu, je vais vous dire à quoi ça se voit. C'est pas compliqué, mais rappelez-vous bien, je l'ai souvent dit, mais je le redis parce que ça tombe à pic. Quand un chrétien a la crainte de Dieu, il considère ce que Dieu dit comme plus important que ce que lui, il pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jugent la Bible. C'est eux qui la jugent. La Bible dit ça, mais moi je pense que peut-être que c'est pas ça. On le voit, les gens jugent la Bible. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas à nous de juger la Bible, c'est à nous de nous laisser juger par la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'une chose est importante, c'est important. Quand quelqu'un dit oui, moi d'accord, je crois en Dieu, mais vous savez, moi l'enfer, ça m'étonnerait que l'enfer existe. Oui. Oui. Moi je pense que Dieu est trop bon pour que l'enfer n'existe pas, pour que l'enfer existe. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui parlent comme ça? Et vous rendez compte, pour qui l'homme se prend-il pour contester avec Dieu? Moi, j'aimerais bien sûr que l'enfer n'existe pas. Mais si Dieu l'a créé, vous croyez que Dieu avait des raisons de le créer? Alors, on n'est pas habilité, nous, pour contester. Le vase d'argile n'est pas apte à contester avec le potier. La crainte de Dieu, ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament. Parce que ça, je l'entends de plus en plus. Oui, mais c'était pour l'Ancien Testament. C'était pour l'Ancien Testament. La crainte de Dieu, on vient de le lire dans les Corinthiens, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie. Voilà. J'apprends à vivre avec la crainte de Dieu. Et quand on entend les gens parler, je parle des chrétiens, les gens du monde, bon, c'est autre chose. Mais quand j'entends certains chrétiens parler de Dieu, de la façon dont ils parlent de Dieu, comme un copain, on l'entend ça. Les gens, oui, le Seigneur, c'est mon copain. Seigneur, c'est mon papa du ciel. Moi, bon, je vous assure, je suis persuadé qu'il manque la dimension de la crainte de Dieu. Jésus, mon copain. On l'entend ça, on l'entend souvent. Je vais vous parler de Jésus, mon copain. J'ai entendu ça un jour dans un rassemblement. Voilà, pas un rassemblement, une colonie de vacances. Voilà les enfants, les gars, il arrive avec sa guitare, bienvenue, vous voyez, bon, c'était les vacances, allez me dire. Enfin, voilà, je vais vous parler, ding ding, avec la guitare, je vais vous parler de Jésus, mon copain. Oh là là, voilà, bon, je suis parti. Et on peut vraiment se poser la question, si les gens connaissent Dieu, quand ils parlent de Jésus, le créateur du ciel et de la terre, de cette façon-là. Vous savez, quand nous parlons de Dieu avec légèreté, nous ne pouvons pas amener les gens à avoir la crainte de Dieu. Ce n'est pas possible. On a l'impression que ça va plaire aux gens, que les gens ils accepteront plus facilement la croix, que les gens ils deviendront plus facilement des chrétiens. Ce n'est pas vrai. Les gens, ils ont besoin de voir des chrétiens qui ont vraiment le respect des choses spirituelles. Un chrétien, il a une vraie piété. Il a une vraie piété. Il ne se comporte pas comme les gens du monde. Quelqu'un un jour disait à mon épouse, « Ah, mais si on parle comme les païens, ils verront qu'on est comme eux. » Justement, oui, c'est ça. C'est ça. Mais la personne pensait que... Vous voyez, mais c'est une chrétienne. Une chrétienne qui disait à ma femme, « Mais oui, si on parle comme eux, ils verront qu'on est comme eux. Ils verront qu'on est, voilà, qu'on est dans le vent, etc. etc. » Moi, je ne pense pas que les gens du monde... Ils aient besoin de voir qu'on parle comme eux. Parce que s'il faut se mettre à parler comme les gens du monde, laissez-moi vous dire qu'on va avoir un drôle de vocabulaire. Qu'est-ce qu'il est dit? Allez, on va lire un autre texte. Une vraie piété, mais on le sait de par nature. On le sait de par nature. 1 Pierre 1,15. Alors, le temps de notre séjour sur la terre... Combien de temps va-t-il durer notre séjour sur la terre? Et Dieu le sait, le premier jour, au dernier. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. On va lire jusqu'au verset 17. « Mais, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Voilà comment Dieu nous demande de nous conduire. Avec crainte, c'est-à-dire avec un respect. Nous devons véritablement comprendre que si le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, on peut soupçonner que l'œuvre de Dieu commence à se faire lorsque dans une église, les gens ont la crainte de Dieu. Vous voulez que l'œuvre de Dieu se fasse dans l'église ? Dans votre vie, au travers de notre assemblée, eh bien, il nous faut commencer à développer la crainte de l'Éternel. Quand moi j'entends des chrétiens qui disent « Oh, mais les saintes lettres, c'est dans le Robert, ou c'est dans le vocabulaire, dans le dictionnaire, on peut le dire », moi je pense que ces gens-là n'ont aucune crainte de Dieu. nous le savons pertinemment qu'un chrétien ne peut pas parler grossièrement. Ce n'est pas possible. Et on peut le justifier comme on veut. Ça, c'est vraiment lamentable. Le manque de respect provoque énormément de mauvaises choses dans le royaume de Dieu. Surtout que les gens voudraient souvent que Dieu agisse comme eux le voudraient. Comment vous voulez que Dieu agisse, vous? Vous voulez que Dieu agisse, d'accord. Mais est-ce que vous voulez que Dieu agisse selon sa souveraineté ou selon ce que vous voudriez? Parce que nous, on a des idées, nous. Seigneur, tu fais ci. Moi, je suis mal à l'aise quand j'entends des gens donner des ordres à Dieu. Je dis, je ne m'entendrai jamais dire amen à quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ordonne ceci, j'ordonne cela. Moi, je dis jamais amen. Ça me met mal à l'aise. Je pense qu'on peut demander au Seigneur, demander, vous recevrez, cherchez, mais de la ordonner à Dieu de faire telle et telle chose, moi, je pense que ça commence à aller un petit peu de travers. Il y a un point de départ, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, c'est vrai que Dieu n'agit pas comme on le voudrait, mais Dieu veut agir. Et c'est certain que Dieu veut agir. Alors, si Dieu n'agit pas, ou si Dieu n'agit pas de suite, comment allons-nous nous comporter? Parce qu'il y a des textes dans la Bible qui nous montrent que le peuple de Dieu s'est vraiment mal comporté parce que Dieu n'agissait pas de suite. Dieu nous éprouve. Regardez avec moi dans Exode 20. Il y a des textes. Si Dieu ne vous répond pas de suite, comment allez-vous vous comporter? Il y a des gens, ah ben Dieu ne m'a pas répondu, eh bien moi je fais ce que je veux. Vous voyez un petit peu la crainte de Dieu. Exode 20, c'est terrible. En fait, tout ça, c'est écrit. C'est bien parce que c'est écrit. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Exode 20, 19 à 20. Alors, il faudrait lire tout le contexte, ce que je vous encourage à faire. Mais regardez, ils avaient été bénis, ils étaient sortis d'Égypte, ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir, ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte. C'était quelque chose de phénoménal qui savait exister. Et puis, ils sont entrés dans le désert, et dans le désert, ça ne s'est pas du tout passé comme ils pensaient. Ça a été un petit peu plus difficile. Exode chapitre 20, verset 19. Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve... » Aïe, 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 vous aimez? Je continue? Bon, oui, vous restez. « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. » Ça a changé de la mer Rouge et de tout le reste. « Que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez... » Qu'est-ce que Dieu voulait? Que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. Vous avez vu la bénédiction de la crainte? Ça nous enseigne à ne pas pécher. Voyez, que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Voilà ce que Dieu voulait. Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve afin qu'on développe la crainte. Et ça, c'est, on le voit dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui prennent des notes, vous lirez dans Hébreux chapitre 12. Dieu rappelle ce qui s'est passé dans le Sinaï. Dieu nous parle, il le dit, que Dieu ne parle pas du Sinaï, mais Dieu nous parle par sa parole. Est-ce que c'est écrit dans l'Hébreux? Oui, Dieu nous parle par sa parole. À combien plus forte raison? Si Dieu a parlé du Sinaï, il nous parlera par sa parole. Et Dieu attend cette obéissance dans notre cœur. Voilà, c'est ce que Dieu attend. Dieu les avait mis à l'épreuve pour qu'ils apprennent à développer la crainte. Cette crainte leur permettrait de ne pas pécher. C'est exactement ce que Dieu veut. Dieu vous a-t-il mis à l'épreuve? Est-ce que vous avez eu des épreuves? Est-ce que vous avez eu des épreuves? Oui, Dieu sait les épreuves par lesquelles nous devons passer. Il les connaît. Il le fait exprès pour que nous développions véritablement la crainte. Et c'est pareil dans le Nouveau Testament. On n'a pas le temps de tout lire parce que je vois que l'heure tourne, mais c'est sérieux. Dieu attend de chacun de nous une véritable obéissance. Dieu ne nous a pas donné la grâce pour que nous vivions comme nous en avons envie. Moi là aussi. Alors, quand on parle de la crainte de Dieu, ce que je vous dis, c'est que c'est cohérent. Ça fait que personne, à la limite, ne peut rien dire. Mais aujourd'hui, quand on parle de la grâce... Les gens mettent n'importe quoi autour de la grâce. N'importe quoi. Ah, mais la grâce de Dieu, je peux faire ce que je veux. Dieu m'a appelé à la liberté. La crainte, c'est clair, on ne peut pas sortir de ce gabarit. On ne peut pas en sortir. Mais la grâce de Dieu, les gens en sont sortis. Ils n'ont pas compris. Et moi, je vais vous donner certainement la meilleure définition de la crainte, c'est dans Tite. C'est avant les Hébreux, justement. Là, pour moi... La meilleure définition de la crainte, c'est après Timothée. Timothée, Tite, c'est un petit livre, Tite, mais ça le mérite au moins de contenir cette grande vérité. Tite chapitre 2, verset 11. Je ne sais pas quelle définition vous donneriez de la grâce. Parce que je suis sûr que dans les églises, on donnerait un petit papier à chacun. Et on dirait, voilà, donnez-moi en trois lignes ce que signifie pour vous la grâce. Pour la majorité des chrétiens, la grâce est une couverture qui couvre le péché. Voilà, je pêche, mais Dieu me couvre. Voilà, c'est ce qui ressortirait presque aujourd'hui dans toutes les églises. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez ce que nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce qu'est véritablement la grâce. Là, on le relit. Et la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Mais c'est pour, on a besoin d'être enseigné. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce qu'est la grâce. Voyez, la crainte de Dieu, bon, c'est un sujet extraordinaire, mais la grâce, ça ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. Ah, mais moi je ne suis plus dans la dispensation de la loi. La loi, c'était la crainte de l'Éternel. La venue de Jésus a amené la grâce. On peut faire ce qu'on veut, on ne peut pas perdre le salut, etc., etc. Vous avez lu avec moi dans Hébreux 12 que le culte, notre vie, mais le culte aussi de l'Église, doit être rendu avec piété et avec crainte. Et on n'a pas lu la fin, mais dans Hébreux, juste après le verset où il nous est demandé de rendre à Dieu un culte avec crainte, il est dit « Notre Dieu est aussi un feu dévorant ». Pour que nous nous rappelions bien que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui essayons de changer les choses en expliquant que la crainte, c'est une doctrine de l'Ancien Testament. Et mais moi, je suis désolé, la crainte de Dieu, c'est une doctrine de toute l'histoire biblique. C'est un état de cœur que tous les hommes doivent développer. Dieu n'a pas changé d'avis, croyez-moi. Alors, c'est sûr, il y a quelques semaines, j'ai été dans une église prêcher. Alors, c'est pas un reproche, fait un reproche. On m'a rien demandé, donc j'ai rien dit. Mais il y avait le meneur de chant qui a fait chanter. Il n'a fait chanter que des cantiques sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour, sur l'amour. Bon, c'est bien. Mais moi, j'essaie de mettre chaque fois à la place d'un pécheur qui vient pour la première fois. Et bien, à la fin de la louange, il vous dit, bon, ben, on a un Dieu qui passe sur tout. Il est bon, il est parfait, il est formidable. Voilà. Et je crois que c'est une erreur que de dévoiler, de ne montrer que l'amour de Dieu. Il faut aussi parler de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. La grâce, elle nous enseigne à développer ces choses. Je pense que c'est vraiment plus important que ce que nous le pensons. Si, de toute façon, si on ne démontre qu'une facette de la personne ou la personnalité de Dieu, Dieu ne sera pas d'accord. Parce qu'on va tronquer la parole de Dieu. Il faut donner toute la vérité de la parole de Dieu. Bien sûr que Dieu est amour. Mais si on ne parle que d'un Dieu plein d'amour, sans sainteté, eh bien on va mentir aux gens. Et les gens ne se comporteront pas comme ils devraient le faire. Si nous ne grandissons pas dans la crainte de Dieu, nous serons familiers avec les choses de Dieu, trop familiers. C'est pour ça que les gens appelleront Dieu papa. Et voilà, moi vous savez, quand j'entends, oh mon petit papa, merci mon petit papa dans l'église. Bon, ici, c'est rare. Si quelqu'un le fait, il ne le fait qu'une fois, ça c'est sûr. Mais dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui le font régulièrement, dans toutes les assemblées. Moi, ça me brise le cœur. Parce que je sais que c'est une pierre d'achoppement. Le Seigneur n'est pas un petit papa. Je suis désolé, ni un grand papa. Le Seigneur est un grand Seigneur saint, redoutable, devant qui tous les hommes un jour devront passer. Et je pense qu'il faut être très sérieux avec ces choses. Pourquoi Paul dit, mais travaillez à votre salut. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on est en train de faire. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Voyez, quand on se réunit, comme c'est le cas ce soir, on dit oui, je veux m'appliquer à faire ces choses. On travaille à son salut. Lorsqu'on lit sa Bible, qu'un chrétien qui ne veut plus lire sa Bible, c'est un chrétien qui ne veut plus travailler à son salut. Et je pense que ça vaut la peine de travailler à son salut, parce que le salut, c'est éternel. Donc il vaut mieux que les choses soient bien faites. Quand Paul dit « considère la bonté et la sévérité de Dieu », oui, moi j'aime ces versets qui nous permettent d'avoir de l'équilibre. D'un côté on considère la bonté parce qu'on a besoin de la bonté, et d'un autre on a besoin de la sévérité de Dieu. Et il s'est dit « considère ». considère la bonté. Certains n'ont considéré que la sévérité. Alors, est-ce que c'est bien de considérer que la sévérité? Non. C'est pour ça que beaucoup d'églises sont tombées dans le légalisme. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et on n'a pas changé les choses. C'est comme ça que ça doit marcher. Et si on ne considère que la bonté de Dieu, que la bonté de Dieu, on tombera dans le laxisme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de déséquilibres. Il y a des églises qui sont devenues légalistes. C'est comme ça que ça marche et c'est pas autrement. Et il y a des églises qui sont tombées dans la bonté de Dieu. Et voilà. Et ça, on permet tout. Les gens font n'importe quoi, n'importe comment. Et voilà. Et le résultat, il est terrible. La bonté de Dieu. Elle nous pousse à quoi, la bonté de Dieu? Tiens, si vous avez lu la Bible, vous le savez. La bonté de Dieu nous pousse à quoi? La repentance. C'est écrit dans quel livre? Les stagiaires, là, c'est écrit. C'est bien, Jérémy. C'est bien. Je vois que c'est dans la Bible, oui, c'est bien. Bon, c'est écrit dans le livre des Romains. Oui, des Romains. C'est bien, Jérémy, on se verra tout à l'heure. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Vous voyez, la bonté de Dieu ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Ah, mais Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, oui, Dieu est bon. Mais quelqu'un qui se tient devant Dieu, la bonté de Dieu qu'il va découvrir dans la Bible, va le pousser à la repentance. La sévérité de Dieu, on l'a vu dans l'Exode, la sévérité de Dieu, oh, je sais que Dieu est saint, je sais que Dieu est sévère. Vous en voudriez, vous, d'un Dieu qui n'est pas exigeant? On a un texte, un vieux chant qui dit « sévère en ses exigences ». Moi, j'aime cette parole. Quel ami fidèle et tendre, vous savez? Sévère en ses exigences. Moi, quand j'ai écouté ce cantique pour la première fois, je dis « mais ça me va très bien ». Parce que je ne voudrais pas d'un Dieu qui ne soit pas sévère en exigence. Parce que franchement, réfléchissons-y un instant. Et la sévérité de Dieu, eh bien, nous garde de péché. On le vérifie plusieurs fois dans la parole de Dieu. Oui, Dieu nous éprouve. Dieu a éprouvé les Juifs dans le désert, les Hébreux, pour savoir ce qu'il y avait dans leur cœur. Vous connaissez quand Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne. Dieu a dit à Moïse, écoute, tu montes sur la montagne, je te parlerai. Aaron, il est resté en bas avec le peuple. Donc c'était deux pasteurs, un est monté sur la montagne, l'autre est resté avec le peuple. Dieu les a éprouvés. Et ils ont attendu. On lit un peu? Alors on le lit quand même. Non mais ça vaut le coup parce que il y a ces temps, nous aussi on a des temps d'attente. Est-ce que vous le savez que des fois il faut attendre? Je pense qu'on le sait tous. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Hébreux. Exode, c'est dans l'Ancien Testament, Jérémie. Exode, chapitre 32. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Ah, quand on en a assez d'attendre. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Qu'est-ce qu'il fait? S'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse... » Vous voyez déjà comme il parlait de Moïse, hein? Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Vous avez vu un peu le respect qu'ils avaient de cet homme? Avec tout ce que cet homme avait fait pour eux, enfin tout ce que Dieu avait fait au travers de cet homme, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous avez vu comme, quand il n'y a pas la crainte, ça dégénère vite. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent, pour se divertir. Et je ne dis pas amen, même si je ne dis pas amen, même on peut dire amen à la lecture. Mais ça fait pitié, quoi. Ça fait pitié de voir comment Dieu les a testés par le fait qu'il n'est pas intervenu. Vous voyez, comme Moïse tardait à descendre. Et qu'est-ce qu'Aaron a fait? Parce que c'est ça, il y a aujourd'hui, dans les églises, on peut donner ce qu'on veut aux gens. Il leur a donné une idole. C'est ce que Aaron a fait. Pourtant, c'était le frère de Moïse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Aaron ne craignait pas Dieu, il craignait les gens. Et quand on ne craint pas Dieu, eh bien, on veut faire plaisir aux gens. Et on leur donne ce qu'ils ont envie. Et vous avez vu comment ça s'est terminé? Vous avez vu comment ça s'est terminé? Ils se levèrent pour se divertir. Quand on ne craint pas Dieu, On craint les hommes. On le voit dans le Nouveau Testament. C'est clair, c'est facile à expliquer, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous avons vu dimanche, à Montauban, je parlais à dimanche de Joseph. Pendant 13 ans, il a été éprouvé. 13 ans, c'est long 13 ans. Et de 17 ans à 30 ans. 13 ans. Mais qu'est-ce que vous voyez pendant les 13 années de ce jeune homme? Vous voyez un garçon qui a eu la crainte de Dieu. Il avait confiance en Dieu et il obéissait à Dieu. Même quand il souffrait, c'est un homme qui a souffert. Qu'est-ce que les gens voyaient? Eh bien, que Dieu était avec lui. C'est pas beau ça? Franchement, est-ce que c'est pas beau? Quand vous discutiez avec Joseph, si Saul respirait le meurtre, quand vous discutiez avec Joseph, cet homme, il respirait la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il obéissait au Seigneur. Et ça, c'est important. Je ne sais pas ce que vous traverserez. Est-ce que vous savez ce que vous traverserez? Non. Mais plus il obéissait, plus il était éprouvé. Mais ce qui se passait, c'est qu'il progressait dans les voies de Dieu. Parce que si on ne donne pas d'explication, plus il obéit, plus il est éprouvé, point. Bon, c'est pas intéressant. Mais plus il obéissait, plus il était éprouvé, mais en vérité, plus il grandissait dans les voies de Dieu et il se préparait à faire ce à quoi Dieu l'appelait. Ça, c'est important. Il a souffert à cause de son obéissance. Mais est-ce que ça valait la peine? Et bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'il avait la crainte de Dieu. D'ailleurs, quand la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, vous vous rappelez, comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Oui, il avait la crainte de Dieu. Si on prend un cas inverse, pour terminer, Caïn, lui, il a souffert à cause de son obéissance ou à cause de sa désobéissance? Il a souffert à cause de sa désobéissance. Il a refusé de se repentir, etc. Et toute sa vie, il s'est placé sous la malédiction de Dieu. Voilà ce que font la majorité des gens dans le monde. Ils refusent les choses de Dieu, ils refusent d'écouter, ils refusent de se repentir. Et le résultat, c'est qu'ils se placent toute leur vie sous la malédiction du Seigneur. Oui. C'est terrible ça, non? Vous ne croyez pas que c'est terrible? Est-ce que c'est pour ça qu'on est venu ce soir? Non, bien au contraire. Nous, on veut la bénédiction de Dieu. Et le mauvais exemple de Caïn nous parle de tous les gens qui ne veulent pas obéir à Dieu et qui se placent sous la malédiction. Quand on commet une erreur, on commet une erreur. On peut commettre un péché. Est-ce que ça peut nous arriver de commettre un péché? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se repentir. Vraiment se repentir. Caïn, lui, il a fait à sa guise. Il a fait à son idée. Il a fait à sa façon. Quand il a fallu offrir un sacrifice, il a offert un sacrifice selon son idée. Et vous savez qu'un sacrifice, ça ne peut pas remplacer l'obéissance. Il y a des gens qui disent, mais je vais faire ça. Je ferai ça pour Dieu. Bon, je vais pas à l'église, mais je ferai ça à la place. Je vous rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et qu'un sacrifice ne peut jamais remplacer l'obéissance. Il y a des gens, mais je fais ce que je veux, mais je donne de l'argent à l'église, plus d'argent à l'église. Comme quoi, un sacrifice nous autoriserait à désobéir à Dieu. Je vous le rappelle, un sacrifice ne peut pas remplacer l'obéissance. Caïn le savait très bien. Et vous avez vu comment il a terminé, parce que le problème de Caïn, c'est tout ce qui s'est passé. Dieu lui a parlé, il est dit que le péché se couchait à sa porte. Et Dieu a essayé de l'aider. Et il était devant un choix. Peut-être que ce soir, quelqu'un est devant un choix. Vous savez, le diable, il se tient à la porte aussi. Il essaye de... Il n'y a pas que Dieu. Le diable aussi, il essaye de nous amener à pécher. Il pouvait obéir. Est-ce qu'il aurait pu être béni malgré sa mauvaise réaction, malgré son péché, malgré le fait que le péché se couchait à sa porte? Est-ce qu'il aurait pu être béni? Mais oui. Dieu s'approche pour lui parler, il dit mais réagis bien, surmonte le mal, parle bien, voilà, relève-toi. Mais il a laissé l'amertume, l'irritation dominer dans son cœur, et vous connaissez la suite, quand on laisse l'irritation, l'amertume nous dominer, il a fini par quoi? Par devenir un meurtrier. Ça m'est arrivé là, quand j'avais du temps de libre l'après-midi, j'ai regardé à plusieurs reprises les enquêtes impossibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce genre d'émission à la télé. Vous l'avez déjà vu? Non. Franchement, quand vous comprenez le processus de Caïn, comment il en est arrivé, de la jalousie, c'est parti à l'irritation à la haine, etc., jusqu'au meurtre. Des fois, on se demande comment une personne a-t-elle pu tuer sa femme, par exemple. On se demande comment c'est possible. Comment? Mais c'est facile à comprendre quand vous étudiez la Bible. Parce que Dieu veut nous bénir. Et si on ne veut pas la bénédiction, on prendra la malédiction. Ce soir, je suis sûr que nous voulons la bénédiction. Vous voulez la bénédiction, tous? Eh bien, nous devons développer la crainte de l'Éternel. Alors, on pourrait voir tous ces cas de figure. J'ai pensé aussi cet après-midi à Saül, le roi Saül. Comment il a commencé cet homme? C'est impressionnant comment cet homme humble, petit, enfin petit aux yeux de Dieu, comment Dieu l'a béni, et petit à petit, il n'a pas supporté que des femmes chantent « Saül a tué 6 000, alors il est content, et David, c'est 10 000. Hein. » Il a dû se dire « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce cantique ?» Ça a commencé comme ça. Et un jour, dans un excès de rage, il a fait tuer toute une ville de sacrificateurs. Je crois qu'il y avait 85 sacrificateurs, leurs femmes, leurs enfants, les petits-enfants. Dans un excès de rage, il a tué plein de pasteurs. On lui aurait dit quand il a commencé, tu sais, Saül, eh bien un jour tu vas tuer plein de pasteurs avec toute leur famille. Je suis sûr qu'il aurait rigolé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais voyez, il n'a pas développé la crainte de Dieu. Il a laissé certaines choses s'installer. Et l'amour nous bénit. Mais la crainte nous préserve de péché. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et mes frères et sœurs, si nous voulons voir l'œuvre de Dieu se développer, si nous voulons avoir de l'assurance, de la joie, du bonheur, si nous voulons toutes ces bénédictions qui sont liées à la crainte, développons la crainte du Seigneur. Offrons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec crainte, avec piété. Soyons sérieux, je ne sais pas ce que vous respirez lorsque vous discutez avec quelqu'un, mais c'est vrai que parfois quand je discute avec certains chrétiens, j'ai presque envie de leur dire, ma responsabilité ne me permet pas de dire certaines choses, mais quand même, je crois qu'on a tout à gagner à respirer la bénédiction de l'Éternel. Quand on parle avec quelqu'un, à respirer la bénédiction du Seigneur. C'est ce que l'on veut, oui, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. On va fermer les yeux, on va demander aussi. C'est un sujet qu'on peut vraiment développer des semaines entières dans une église, tellement il y a de textes dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais que l'on prie pour que Dieu nous aide. Il y a des exemples très négatifs dans la Bible, il y a des exemples positifs. J'ai terminé avec 2 exemples négatifs, mais pour nous faire prendre conscience qu'il faut faire attention à ce que le Seigneur veut nous dire. Voilà, on va terminer en priant, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu nous as laissé ta parole. Vraiment, et que de textes, nous enseignent que lorsque tu éprouvais les gens, c'était pour les enseigner à ne pas pécher, pour les enseigner à avoir la crainte de ton nom. Combien sont passés à côté? Quand nous pensons à Caïn, quand nous pensons à Saül, quand nous pensons à Judas, combien nous sommes peinés de voir ces hommes si près de toi, se sont tant éloignés. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est être attentif à ton enseignement. Oui, nous croyons que si nous écoutons, tu nous enseigneras la crainte de l'Éternel. Seigneur Jésus, tu nous vois ce soir rassemblés dans ta maison. Oui, nous ne voulons pas chanter pour chanter, écouter ta parole juste pour écouter ta parole. Mais nous voulons véritablement, Seigneur, que cette crainte soit une bénédiction dans l'Église, dans nos foyers, dans les couples, dans les maisons, auprès de tous, dans nos enfants, que nos enfants développent vraiment la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Oui, Seigneur, nous voulons ta parole. Nous croyons que si ta bonté nous pousse à la repentance, la crainte vraiment nous empêche de pécher. Seigneur, merci pour ces moments. Que ta volonté soit faite et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.